Chapitre 5. La cerise, la voleuse d'enfants. Après la prière, ce fut la toilette. Petite reine aurait mieux aimé jouer avec les belles branches de lilas, mais déjà, sur le pied du lit, toutes les diverses pièces de son costume mignon étaient rangées. « Mère, pourquoi m'habiller de si bonne heure ?» Elle parlait comme une femme et la Gloriette lui expliquait tout. « Parce que, chérie, tu vas aller toute la journée au jardin des plantes. Avec toi, quel bonheur ! Non, avec Madame Noblet qui mène les enfants. Ici, une moue, Lily sourit. Les mères aiment tant qu'on les regrette. » Lily mit les pieds de l'enfant dans une large cuvette et commença les ablutions à grande eau. « Et toi, dit Petite Reine, tu vas rester ici ? Moi, je vais aller reporter de l'ouvrage et nous aurons de l'argent, et je te mènerai où tu sais bien faire ton portrait pour l'envoyer à Petit-Père. » On y avait déjà été une fois chez le photographe, mais Petite Reine, trop enfant, avait bougé. Et dans l'épreuve, c'était un nuage que la Gloriette tenait entre ses bras. Seulement, on n'avait pas jeté l'épreuve, parce que, je ne sais comment, le nuage souriait. Petite Reine demanda, « Y aura-t-il ma cerise sur le portrait ?» Elle fut embrassée, toute mouillée qu'elle était, et la jeune mère répondit, « Je voudrais bien, mais je n'oserais pas. Ah, parce que tu dis que petit père riait toujours en regardant ma cerise. » Lily passa son mouchoir sur ses yeux pour essuyer l'eau du baiser et peut-être une larme. Il y a des mots qui font revivre tout un bonheur passé. Nous sommes dans les enfantillages jusqu'au cou, avec cette Gloriette et Petite Reine. Un de plus, un de moins, le lecteur nous pardonnera. Petite Reine avait une cerise, mais si bien faite, une cerise rouge, brillante, avec un peu de jaune d'or au milieu, comme si elle l'eût pendue encore à l'arbre sous un rayon de soleil. C'était un fruit de ce travail bizarre et mystérieux que la nature accomplit en se jouant chez celles qui vont être mères. Elles ont des désirs fougueux, impossibles parfois, et l'enfant vient, portant quelque part le témoignage du caprice qui ne fut pas satisfait. Il arrive ainsi que la postérité de Madame Canada puisse apporter en naissant une goutte de café sous l'œil ou un bon verre de vin bleu répandu sur la moitié du visage. C'est hideux. Et c'est charmant quand, au lieu des brutales fantaisies de la misère, la jeune femme a souhaité ce que rêvent les heureuses, des fleurs par exemple. Dumas fils, qui écrivit ce beau livre « La dame aux camélias », trouverait dans une telle noble demeure du faubourg Saint-Germain le titre d'un autre livre aussi gracieux mais plus chaste. « La dame aux roses ne se coiffe point comme les autres marquises ». Elle laisse tomber ses cheveux noirs en larges boucles sur ses épaules. Assurément, il n'y eut jamais que la main d'un époux ou le souffle du vent pour soulever ce riche voile et découvrir les deux roses pâles, divins pastels, qu'une envie de sa mère estompa sur le velin de sa nuque. J'ai dit le mot, ce sont des envies. Et Lily, la sauvage, avait eu tout bonnement envie de cerises. Au temps où Justin, le bel étudiant, était fou de Lily et de sa petite, il jouait des heures entières auprès du berceau, et c'était de longues joies quand on découvrait la cerise. Seulement, la cerise ne pouvait pas être sur le portrait. Le hasard l'avait placée en un lieu qui se voile, entre l'épaule droite et le sein, tout près de l'aisselle. Avant de passer une petite chemise blanche, plus blanche que la neige, Lily baisa la cerise avec un gros soupir. « Tu dis toujours que père nous aime, » reprit Justine. « Pourquoi a-t-il besoin d'un portrait pour venir nous voir ?»« Il ne fait pas ce qu'il veut, » répliqua Lily. « Donne tes jambes. » C'était pour le pantalon festonné qui tombait sur les bas blancs rayés d'azur. Puis vinrent les bottines, une paire de joyaux. « Père est donc malheureux ? » demanda encore la fillette. « Oui, parce qu'il est loin de toi. Au corset. » C'était Lily qui avait fait le corset. calculé pour ne point gêner cette chère et frêle taille. C'était Lily qui avait brodé le fichu et la collerette. Il faut l'aimer, bien l'aimer, le pauvre père.
Pas tant que toi, dit maman.
Si, autant que moi. Passe tes manches.
Elle pensait, la pauvre Gloriette, s'il la voyait, mon Dieu. Et c'était vrai, il eût suffi d'un regard jeté sur cet adorable enfant pour ramener le plus indifférent des pères. Et Justin, autrefois, avait si bon cœur. La robe fut agrafée, une étoffe bien simple mais choisie avec un goût et qui vous avait une tournure sur ce jupon bouffant. Puis le petit manteau, évasé comme une cape espagnole, et puis la toque d'où les cheveux ruisselants s'échappaient. Un instant, la Gloriette resta en extase. Elle n'avait jamais vu Petite Reine si jolie. Et Petite Reine elle-même, bien qu'il n'y eût point de glace dans la chambrette, avait conscience de sa parure. Elle se tenait droite. On devinait en elle une vague tentation d'être raide. Mais les lilas de la laitière étaient encore épars sur le berceau. Après avoir hésité pendant la moitié d'une minute, Petite Reine fut vaincue, et prenant son élan franchement, elle se roula parmi les fleurs. En ce moment, un bruit monta de la rue, un bruit plaintif de clochettes.
« Ah, mère Noblet ! S'écria Lily, nous sommes donc en retard !»
Il y avait eu une montre et même une pendule, mais c'était de l'histoire. Lily s'élança vers la croisée d'où elle vit, sur la place Mazas, une bonne femme coiffée d'un large chapeau de paille, couleur tabac, qui conduisait un troupeau de petits enfants diversement habillés. C'était Madame Noblet, dite la promeneuse et aussi la bergère. En marchant, elle agitait une clochette comme celle qui pend au cou des moutons, et les mères sortaient des maisons à ce signal convenu pour lui amener leurs enfants.
« Attendez-moi, mère Noblet, dit Lily par la fenêtre, nous descendons tout de suite. »
La bergère souleva son grand chapeau pour regarder en l'air et fit un signe de tête caressant.
« À votre aise, madame Lily, répondit-elle, les petits vont s'amuser un peu dans les terrains. »
Le troupeau se précipita aussitôt vers un chantier ouvert où s'amassaient des matériaux et où restaient quelques arbres poudreux qui attendaient la hache. On caquetait, on riait, on se disait « Ah, nous allons avoir Petite Reine !» Et la bergère suivait gravement, tricotant un bas de laine. Saladin, derrière son voile bleu, attaché au béguin d'apparence monastique, lorgnait tout cela. Les choses se présentaient mieux encore qu'il n'eût osé l'espérer. La bergère avait l'air d'une momie sous son vaste abat-jour. Le troupeau était nombreux. Il ne s'agissait que d'un peu d'adresse. « J'en ai avalé d'une autre longueur de sabre, » se dit Saladin. « Si on avait le placement de la marchandise, j'emporterais la moitié de ce petit monde-là dans ma poche. » Ne perdez jamais aucune parole de ce Saladin, qui devait être avec le temps un homme considérable. Sous sa chétive enveloppe, il possédait déjà ce grand esprit d'entreprise qui est un don de Dieu. En province, il avait volé à l'américaine avec succès. Le choix du vol à l'américaine indique une intelligence à la fois hardie et pratique. Tout le monde ne peut avoir une boutique de changeur sur le boulevard. Il y avait même, dans le talent précoce de notre jeune Saladin, comme avaleur de sabre, une promesse morale, une garantie. Je ne sais pas si les populations seront de mon avis, mais pour moi, il y a quelque chose de chevaleresque dans le travail de ces mangeurs de fer. Personne plus que moi ne respecte l'armée, cette vaillante gloire de la France, mais l'imagination est une folle, et je me suis laissé parfois bercer par cette pensée scientifique, un Saladin dévorant quelques beaux jours tous les sabres de l'univers. On garderait, bien entendu, les panaches et les épaulettes qui ne font de mal à personne pour embellir les fêtes publiques. Nous ferons une fois ou l'autre la biographie de Saladin, dont l'enfance avait été un poème. Dès à présent, veuillez remarquer en lui, outre l'initiative, la décision et le courage à la besogne, cette tendance heureuse à généraliser les opérations. S'il avait eu le placement de la marchandise, il eût détourné la moitié de la clientèle de Madame Noblet. C'est, à l'état élémentaire, le dialogue sublime de la production et du débouché.
Évidemment, cet adolescent, dont l'éducation avait été négligée et qui n'avait même pas été employé dans le commerce, possédait en lui le germe des grandes combinaisons industrielles. Il quitta sa pièce de bois, où on aurait pu le remarquer, et tourna l'angle du boulevard Mazas. Un seul détail le contrariait dans ce qu'il avait vu, c'était la présence d'un gros garçon portant l'uniforme du gamin de Paris, plus un tablier de bonne d'enfant. Ce joufflu semblait innocent, mais très robuste. Il avait au bras un immense panier et faisait manifestement partie du troupeau de la bergère en qualité de chien. Il n'est pas hors de propos de constater ici que Madame Noblet avait une administration fort bien montée, méritant à tous égards la confiance des familles. Outre le joufflu, qu'on appelait familièrement Médor, elle employait une sous-bergère, bossue et puissamment laide, qui n'offrait aucun danger au point de vue de messieurs les militaires. La Gloriette fut juste 3 minutes à faire sa toilette. Au bout de ce temps, Saladin, qui allait à pas tremblants, courbé en deux comme une pauvre vieille, la vit sortir de la maison tenant Petite Reine par la main. Elle traversa la place, récoltant toujours sur son passage des sourires et de caressants bonjours. Justine, la petite coquette, se tenait cambrée déjà et jouissait de son succès. L'œil rond de Saladin brilla sous son voile, pendant qu'il se disait « Elle fait sa sucrée, ah, tu me trouves laid, toi, patience !» La Gloriette, habillée comme la veille et si jolie que Madame Noblet poussa un grand soupir en songeant à ses 20 ans, avait sous le bras un paquet assez volumineux. « Je vais reporter de l'ouvrage jusqu'à Versailles, dit-elle, un voile de mariée qu'on attend. Je ne serai pas revenue avant 4 heures. Ah, je vous recommande bien Justine, ma bonne Madame Noblet. Mais où donc est votre gardienne ?» Malade, répondit la bergère, mais j'ai Médor, et puis je n'aurai qu'à choisir au jardin des plantes. Il y en a assez qui tournent autour de chez moi, la place est bonne. D'ailleurs, vous savez bien que tous mes enfants mettent Petite Reine dans du coton. Est-elle assez mignonne, ce trésor-là ? Lily enleva sa fille dans ses bras et lui donna un dernier baiser. L'omnibus passait, mais l'omnibus fut obligé d'attendre parce que Lily donna encore des recommandations et une pièce blanche pour le cas où Petite Reine aurait envie de quelque chose, et d'autres baisers après le dernier et des promesses de bientôt revenir. Eh bien, dans l'omnibus, personne ne se fâcha. Quand Lily monta enfin, le conducteur lui prit galamment son paquet et un sourire général salua son entrée. Au moment où l'omnibus repartait, un coupé qui stationnait de l'autre côté de la place s'ébranla. L'homme au teint de mulâtre que nous avons vu entrer au théâtre de Madame Canada sur les pas de la Gloriette, le pair de France étranger, montra sa figure bronzée à la portière et dit au cocher « Suivez !» Le cocher mit aussitôt son attelage au trot. Madame Noblet et son troupeau prenaient en même temps le chemin du Jardin des Plantes par le pont d'Austerlitz. Il y avait un ordre établi. Ordinairement, la sous-bergère bossue marchait en avant, suivie des plus petites allant par 3. La bergère en chef cheminait sur le flanc de la colonne et Médor fermait la marche derrière les grandes. Aujourd'hui, Médor était en avant et Madame Noblet avait le poste d'honneur à l'arrière-garde. Saladin s'ébranla quand toute la petite armée fut engagée sur le pont et suivit le même chemin d'un air pensif. Il se demandait ce qu'il allait faire de ses 100 francs, car le doute ne lui venait même pas sur le succès de son entreprise. Si Boileau écrivait de nos jours une épître sur les inconvénients de Paris, les militaires y auraient une place considérable. Prenant par la ville leur appétit proverbial, leur soif qui jamais ne s'éteint et leur incessant besoin d'aimer, ils encombrent et gênent tout naturellement, comme les voitures des blanchisseuses. Comme ils n'ont rien à faire, ils marchent à pas lents, regardant tout et désirant tout ce qu'ils regardent. Ils font partie intégrante de tous les embarras et n'en savent rien. Le cœur est un incendie menaçant la voie publique. Supérieurs à Don Juan, qui n'aimait que l'amour, ils ont appris, dans les casernes de Quimper ou de Béziers, la féerique légende de Paris, plein de cuisinières distribuant des bouillons et de bourgeoises âgées offrant de petits verres à la jeunesse. Sur le champ de bataille, ce sont des héros. En temps de paix, on ne sait vraiment où les mettre. Il y a cette lugubre histoire de Versailles, dépeuplée par le prestige de l'uniforme. Ce n'est pas loin, allez-y voir. Le foin y pousse dans les rues, les duchesses y font la soupe, en l'absence du dernier cordon bleu mangé par les cuirassiers. Entre 10 et 72 ans, nulle personne du sexe n'ose sortir sans l'appui d'un brigadier corroboré de 4 gendarmes. Tel est l'état actuel et vraiment malheureux de la ville fondée par le grand roi, que Paris tremble. À gauche, en entrant par la grille du jardin des plantes qui ouvre sur la place Valhubert, on trouve un bosquet très vaste, dévolu aux jeux d'enfants et aux galanteries entre bonnes et militaires. J'ai entendu de vieilles gens appeler ce lieu le bois de la reine. Madame Noblet y prétendait un vague droit de propriété. Quand les collèges y venaient, elle se plaignait à un fossile de ses amis, nourri dans une pension de la rue Copeau et remarquable par l'immensité de son garde-vue vert. Le fossile n'était pas éloigné non plus de considérer comme des usurpateurs ceux qui venaient s'asseoir sur son banc, en face des plates-bandes contenant la série des plantes alimentaires. Ce fut vers ce bosquet que Madame Noblet dirigea son troupeau, en bon ordre. Elle le parqua, selon la coutume, dans un carré délimité par un certain nombre d'arbres connus et comprenant le banc du fossile. Madame Noblet prit position sur le banc, où elle garda une place à son ami, et Médor, avec le panier, fut placé à l'autre extrémité du carré. Il était matin, les bonnes n'arrivaient pas encore. C'est à peine si quelques uniformes impatients se montraient déjà dans les parties sombres du bosquet, où l'on voyait aussi une demi-douzaine d'étudiants assis par terre, sans façon, au pied des arbres, et lisant qui du courroie étrouillé, qui un traité de matière médicale. C'est ici un autre pays latin peu connu. Presque toutes les pensions bourgeoises du quartier Saint-Victor nourrissent à prix réduit des étudiants pauvres et laborieux, dont le jardin des plantes et l'académie. La bergère s'étant installée commodément, le petit peuple se mit à jouer, gardant une excellente discipline. Il y avait là bien une vingtaine d'enfants de différents âges. Personne ne dépassait jamais les limites imaginaires tracées par la volonté de Madame Noblet. Médor, assis auprès du panier, se mit à dévorer un petit tas de dessertes achetées à l'Arlequin de la rue Moreau, avec un demi-pain de munitions. On jouait à la dame, et bien entendu, malgré son jeune âge, Petite Reine était la dame. Elle épandait autour d'elle un charme. On l'enviait, mais on l'aimait. Saladin fit le tour de la grille et entra par la porte de la rue de Buffon. Il se tint longtemps à l'écart, regardant le jeu comme un renard qui guette des poules et combinant sans doute son plan. Tous les jeunes soldats, épars dans le bosquet, vinrent tour à tour lui faire des yeux tendres. Quelques-uns même se risquèrent jusqu'à glisser sous sa coiffe des paroles passionnées. Son déguisement avait beau faire de lui une vieille très laide, Don Juan non gradé ne s'arrête pas pour si peu. Ce sont des volcans que nos conscrits. Madame Saladin les repoussait avec fierté, mais sans rudesse, les priant de ne pas outrager une mère de famille. Elle devinait vaguement que ces acharnés chercheurs d'aventure pouvaient, à leur insu, devenir ses auxiliaires. Elle en avait besoin, car les choses n'allaient pas comme elle l'avait espéré. Le petit troupeau, parqué sous l'œil de ses gardiens, se défendait de lui-même, et Madame Saladin avait déjà considéré en elle-même que la grosse main de Médor devait lancer à l'occasion de formidables coups de poing. Ce qu'il eût fallu, ce que Saladin avait rêvé, c'était la promenade autour des parcs où sont les animaux, des allées, des venues, l'attention des enfants sans cesse excitée, Médor courant après les traînards et Madame Noblet ne sachant plus auquel entendre. Saladin se disait, ce sera dur, elle l'est rusée, la vieille Rodriguez, elle l'est mieux tricoter son bas tranquillement que de courir, et puis je parie qu'elle fréquente une anticaille qui va venir s'asseoir à son banc Ah, là, j'ai gagné. » Le fossile arrivait en effet, descendant l'allée de Buffon à petits pas comptés. Il portait une lévite à gigot du temps de la Restauration, des souliers à boucles et une casquette à auvent. C'était un beau sujet, bien desséché, avec une canne en corbin et le calendrier de 1819 imprimé sur sa tabatière. Il avait tué en duel autrefois, lors de l'invasion, deux officiers russes, un prussien et un autrichien. On l'appelait alors au café Lemblin le mangeur de cosaques. Il racontait cela, ce que c'est que de nous. Maintenant, on lui avait donné le nom de fossile à cause de son état très avancé de pétrification et parce que le quartier est plein de la gloire de Cuvier. Il était courtois, mais irritable. Quand il se fâchait, il avait la même voix que les trois pigargues logés entre les aigles et les vautours au bout de la hutte des oiseaux. Dès que les pigargues l'entendaient de loin, il criait. Le fossile vint s'asseoir à sa place, sur son banc. Madame Noblet et lui se firent les politesses d'usage, après quoi l'ancien mangeur de cosaques appela Petit Traîne pour lui donner trois pastilles de chocolat apportées dans du papier. Il détestait les enfants, mais il aimait Petit Traîne. Ces choses étant faites, il croisa ses deux mains sur sa canne, plantée entre ses deux jambes, et se laissa aller au sommeil en disant « Si elle saute à la corde, vous m'éveillerez, chère madame. » Elle, c'était Petit Traîne. En vérité, jusqu'à présent, le déguisement du pauvre Saladin n'avait pas produit des résultats bien appréciables. L'arrivée du fossile marquait l'heure de midi aussi sûrement que le canon du palais royal. Après tout, c'est un dur métier que celui de loup. Il rôde parfois terriblement longtemps, le ventre creux autour des bergeries. Personne n'a pitié d'eux parce que personne n'en mange, mais comme nous plaignons ces doux agneaux à cause des côtelettes. Vers 1 heure, sur un signe de la bergère, Médor ouvrit le panier aux provisions et tous les enfants vinrent reconnaître leur déjeuner. Saladin commençait à avoir faim, ce qui engendre la tristesse. Il se demanda pour la première fois « Est-ce que tu vas te casser une jambe de 100 sous, ma fille ?» Il s'éloigna, craignant d'exciter l'attention en pure perte. L'heure passait. De la façon dont les choses allaient, il était aussi impossible de faire ses frais que de prendre la lune avec les dents. Saladin, soucieux et se creusant la tête, atteignit la grande grille, où il déjeuna d'un de ces petits pains qu'on jette aux ours. Avec le reste de son argent, il acheta un sucre de pomme, une demi-douzaine de biscuits et un bonhomme de pain d'épices. Puis il revint par l'allée de Buffon. Le jardin s'emplissait, les provinciaux arrivaient. Malheureusement, les 9/10 des promeneurs tournaient à droite pour rendre leur devoir au lion, à l'éléphant, à la girafe et à l'hippopotame. Il y avait une place libre sur le banc le plus rapproché de celui où Madame Noblet et son mangeur de cosaques poursuivaient leur silencieuse entrevue. Saladin s'y assit à tout hasard, les mains croisées sous son châle et si doucement humble que chacun pensa « Voilà une bonne vieille qui n'a pas l'air heureuse. » « à la corde !» fit-on dans le troupeau. Aussitôt, comme par enchantement, un cercle de curieux se forma. « Que personne ne se mette devant moi !» cria le fossile, sous son énorme visière, en levant sa canne d'un geste tremblant et menaçant. On obéit en riant, et il y eut une ouverture au cercle en face du banc. Médor prit un bout de la corde. Ordinairement, c'était la sous-bergère qui tenait l'autre bout. Son emploi fut donné à une grande. Madame Saladin, sous prétexte de mieux voir, se glissa dans le cercle. La grande tournait mal et fit manquer Petite Rose au premier vinaigre. Or, depuis que le monde est monde, on n'avait jamais vu entrer, sauter et sortir aussi adroitement que Petite Reine. Le mangeur de cosaques jeta son cri d'oiseau, auquel les pigargues répondirent dans le lointain, et Médor chercha des yeux dans le cercle une figure connue. Juste à ce moment, Madame Saladin écartait son châle, comme si la main lui démangeait. « C'est ça, la mère, » dit Médor, qui vit le mouvement. « Prenez la corde, et attention !»
Le cœur de Madame Saladin battit. Elle eut un bon sourire et prit la corde. Petit Traîne, bien secondé, récolta un tonnerre d'applaudissements.
« Remercie Madame, Trésor !» lui cria Bergère. « Il faut de la politesse !»
Justine, toute rose et toute gracieuse, vint tendre son front à Madame Saladin, qui lui donna un sucre de pomme après l'avoir embrassé. Le petit chaperon rouge devait être bien jeune quand il prit le loup pour sa mère grand. Saladin avait toutes sortes d'avantages sur le loup. Sa figure de gamin, déjà usée, se prêtait merveilleusement au rôle qu'il avait choisi. Petite Reine l'embrassa du meilleur de son cœur et lui fit une belle révérence. Mais, d'un autre côté, compère le loup était tout seul dans la cabane avec le petit chaperon rouge, tandis que Saladin avait ici des centaines de témoins qui le gênaient. La corde à sauter l'avait, il est vrai, rapproché de Justine, mais le bosquet était désormais encombré. C'était de l'enthousiasme que Justine excitait. Tout le monde la regardait, tout le monde voulait lui donner une caresse. Les difficultés de l'entreprise augmentaient au lieu de diminuer. Saladin se retira discrètement au second rang. 2 heures sonnaient à l'horloge du muséum.
« Veux-tu te reposer, Trésor ? » demanda la bergère à Petite Reine. « Ah non !» répondit l'enfant insatiable. « Je veux jouer aux quatre coins !»
Elle était toujours obéie. Le jeu des quatre coins commença. Madame Saladin, appuyée contre un arbre, se disait «
Ah, c'est la lune à prendre avec les dents. Quoi, mauvaise affaire. On ne peut pas escamoder ça en plein jour comme une muscade. Ah, j'avais compté sur les animaux, sur le labyrinthe et le tremblement. Rien de tout ça, pas même un embarras d'omnibus à espérer. Rasé, chou blanc, 114 sous de perdu. Va bien, je renonce au commerce.
Je ne crois pas qu'il y ait une providence pour les loups, et pourtant, vous allez voir. » Au moment où Madame Saladin, perdant courage, allait peut-être jeter le manche après la cognée, un grand mouvement se fit du côté de la grille de la rue de Buffon. C'était une pension du voisinage qui venait promener ses premières communiantes. En même temps, par la place Valhubert, un collège entra. Ce n'est pas tout. Le théâtre des bêtes en cage fermait. Le flot des curieux établit son cours par l'entrée des métiers du Japon et descendit vers les bosquets, tandis que les visiteurs du muséum revenaient par l'allée de Buffon. On causait de l'ours dans les groupes faubouriens. L'ours est la gloire la plus populaire qu'il y ait à Paris. On racontait l'aventure du chat, imprudent et gourmand, qui s'était lancé dans la fosse à la poursuite d'un oiseau blessé. Martin avait mangé l'oiseau et le chat d'une seule bouchée, en se dandinant horriblement. Tant que Paris vivra, il radotera cette palpitante histoire. La famille anglaise était là, 7 demoiselles, 7 tartans, rose et bleu, 7 voiles verts, 14 longues jambes qui sautillent en marchant comme les pattes d'ibis d'Égypte. La mama sentimentale et maigre, la governess, humble plus qu'un chien battu, et le lord, couleur d'apoplexie, qui est coutelier de son état dans le Strand. La société de province était là aussi, 12 de parapluies, hommes et femmes, parlant haut, avec l'accent de ces pays-là, exaltant Marseille ou Landerneau, au détriment de Paris, qui, au total, n'a qu'une chose bonne, curieuse, succulente et profitable, les dîners à 32 sous. C'était déjà la foule, et c'était la foule particulière au Jardin des Plantes, où l'on trouve des paysans, comme aux foires du Calvados, des gamins, ainsi que partout, des hommes d'État en quantité, des guerriers par compagnie, des pachas, des odalisques, et même des savants égarés. Saladin ouvrit ses yeux ronds tout grands, et un vent d'espoir enfla ses narines. Il ne fallait désormais qu'un hasard, gros comme le doigt, pour transformer la foule en cohue. Les pêcheurs troublent l'eau. Quand le hasard ne vient pas de lui-même, on peut le faire naître. Saladin balaya l'horizon d'un regard d'aigle, cherchant l'embryon du hasard. Il aperçut un marchand de nougat de Constantine qui allait seul, les mains derrière le dos,
portant sous son turban la mélancolie de mignon regrettant sa patrie. Il aperçut aussi, à la grille, qui mène au chemin de fer d'Orléans, une vaste tapissière pleine de coiffes. Il remercia le dieu des loups au fond de son âme, car les ouaves abondaient et flairaient déjà ce chargement de nourrice. En tournant la corde pour la petite reine, Saladin, la brave femme, s'était concilié la bienveillance générale. Il se pencha à l'oreille de son voisin, qui était empailleur de reptiles rue Geoffroy-Saint-Hilaire, et lui dit, en désignant le marchand de nougat, « Voulez-vous voir l'émir Abdelkader ?» Il fut entendu de 6 personnes qui dirent aussi « Abdelkader !»« Abdelkader !» crièrent aussitôt 100 voix de proche en proche. Et le marchand de nougat lui-même, ému à l'idée de rencontrer son illustre compatriote, chercha tout autour de lui Abdelkader. Un tumultueux mouvement s'était fait. La famille anglaise, la société de province, les gamins, les paysans, les almés en disponibilité, les collégiens, les communiantes, se ruèrent tous ensemble et impétueusement pour voir l'héroïque bédouin qui tint si longtemps en échec les armées de la France. « En rang, les enfants !» cria Madame Noblet, effrayée. Médor se mit à rassembler le troupeau. Mais le chargement de nourrice arrivait, semblable à un triomphant bouquet de pivoines écarlates. En marchant, les luronnes riaient et causaient toutes à la fois. Elles étaient une douzaine. Elles avaient bu en route comme un demi-sang de sapeurs. Les prestiges de l'uniforme, cavalier ou fantassin, prisonniers de la cohue, les entendaient et les respiraient. Évitez-vous jamais le superbe étalon, briser l'obstacle qui barre le chemin de la prairie où sont les cavales. Tous les prestiges gémissant, frémissant, bondissant, humant à plein naseau, le vent qui venait des nourrices, attaquaient à la cohue en sens divers, la percèrent, la criblèrent, et chaque pivoine détachée du bouquet fut bientôt entourée d'une guirlande d'uniformes. Cela ne s'était pas fait sans une mémorable poussée. Il y eut des cris d'anglaises, les plus déchirants de tous les cris connus, des huées de gamins, des jurons de campagnards. Madame Noblet, tricotant, et Médor, mangeant, couraient comme deux âmes en peine au milieu de ce tapage, au-dessus duquel s'éleva la clameur inhumaine du fossile dont le pied goutteux venait d'être écrasé par un professeur d'histoire naturelle errant. Tout a une fin, cependant. La foule, moitié riant, moitié grondant, s'aperçut qu'on l'avait mystifié. Au moment où le tumulte allait s'apaisant, la Gloriette passa en courant la grande grille, toute heureuse qu'elle était d'avoir gagné 10 minutes sur le temps de son absence. Il faut peu de choses pour inquiéter les mères. La Gloriette eut peur de ce rassemblement qui encombrait le bosquet et hâta le pas en perdant son sourire. Mais elle fut rassurée tout d'abord par la vue de la bergère et de Médor qui tenaient le troupeau en bon ordre comme une phalange compacte. Petite Reine était sans doute au milieu puisque c'était la place la plus sûre, la place d'honneur. D'ailleurs, le visage de Madame Noblet était si tranquille que toute crainte devait disparaître. « Ah, nous avons eu une alerte, dit-elle. Ah, Dieu merci, le gouvernement fait ce qu'il veut. Il laisse entrer maintenant un tas de fainéants et de vagabonds. Mais avec mon organisation, les accidents sont impossibles. Justine, voici maman. » « Elle se cache, la coquette, » dit Madame Lily en s'asseyant. « A-t-elle été bien sage ?»« Oh, comme une image ! Et nous avons sauté à la corde, il fallait voir. Voici maman, Justine !» Madame Lily se mit à rire, et comme Justine ne venait pas, « Il paraît qu'on veut me faire une grosse niche, » murmura-t-elle. La foule s'écoulait lentement. Le troupeau ne demandait qu'à se débander pour reprendre ses jeux. Médor, inflexible, maintenait la discipline, mais il y avait une chose singulière. Médor avait lâché son pain et ne faisait pas sa randonnée habituelle comme un bon chien de berger. Il restait derrière le groupe d'enfants, allant de l'un à l'autre, les dérangeant même pour voir à l'intérieur de la phalange. Il avait l'air de compter. Il était tout pâle, et sous ses cheveux crépus, de larges gouttes de sueur perlaient. « Allons !» ordonna Madame Nioblet. « Rompez les rangs pour qu'on voie Petite Reine. C'est assez de se cacher, maman a peur !» La Gloriette écoutait d'avance le rire argentin de l'enfant qui allait crier « Coucou !» avant d'être découverte pour courir et se précipiter dans ses bras. mais ce ne fut pas cela qu'elle entendit. Une voix s'éleva derrière le troupeau, disant « Il manque quelqu'un !» Cette voix était sourde et rauque. Elle parlait si bas que Madame Noblet n'avait point saisi le sens des mots prononcés. Mais Lily frissonna de la tête aux pieds, et la teinte rose que la course avait amenée sur ses joues tourna subitement au livide. « Ah, m'obéit-on à la fin ? » s'écria la bergère avec impatience. « Ici, petite reine, mademoiselle !» Les rangs s'ouvrirent. Médor passa au travers en chancelant. Ses gros yeux battaient. Il faillit s'étrangler de l'effort qu'il fit pour prononcer ces mots. « C'est elle qui manque !» Lily se leva toute droite et porta ses deux mains à son cœur. La bergère ne comprenait point encore ou ne voulait point comprendre. « Qui manque ? » répéta-t-elle. Puis elle ajouta, « Avec mon organisation, c'est impossible !» Lily marchait vers les enfants qui reculèrent à l'aspect de son visage déconcerté. Médor se mit à la suivre pas à pas, tandis que Madame Nioblet, retrouvant un peu de présence d'esprit dans le sentiment de sa fonction, s'écriait « Messieurs, allez aux grilles, pour l'amour de Dieu! Prévenez les gardiens et les factionnaires et tout le monde! Il y a un enfant de volé !» « Justine, Justine !» appela en ce moment la Gloriette d'une voix caressante et douce. Elle ne donnait aucune attention au grand mouvement qui se faisait autour d'elle. La foule s'était reformée avec une rapidité extraordinaire. La nouvelle du malheur arrivé courait comme le vent. Quelques braves gens, moins pressés de bavarder que de bien faire, se hâtaient de courir aux grilles. La Gloriette disait « Justine, ne te cache plus, je t'en prie, je sais que tu es là, mais je ne veux plus jouer, c'est un jeu cruel, réponds-moi, où es-tu ? » Elle dérangeait chaque enfant l'un après l'autre, et ceux-ci la regardaient, ébahis, avec des larmes dans les yeux. Ils avaient compassion instinctivement, parce qu'elle les suppliait à main jointe. « mes petits, priait-elle, avec un sourire qui mendiait une consolation. « Laissez-moi voir, ma chérie, je sais qu'elle n'a pas perdu, mais, voyez-vous, je n'ai plus la force de jouer. » Il y eut un enfant qui répondit « Cherchons !» et le troupeau s'éparpilla, tournant autour des arbres, quêtant, furetant, appelant « Petite reine, petite reine !» Médor laissait faire, il semblait anéanti. Madame Noblet, au milieu du groupe, détaillait le signalement de Justine, mais chacun répondait « Nous connaissons bien, petite reine !» Et beaucoup partaient les bonnes âmes pour fouiller le jardin de bout en bout. D'autres arrivaient, le bosquet était plein, l'allée aussi, le nom de petite reine allait et venait par la foule. Tous l'aimaient et disaient à ceux qui ne l'avaient jamais vue sa gentillesse, sa grâce et la mignonne vivacité de ses réparties. Tout à l'heure encore on l'avait applaudi, sautant à la corde, comme si on eût été au théâtre. Et sa mère qui en était si fière, si folle, sa mère qui, à cause d'elle, s'appelait la Gloriette, on se la montrait de partout. Elle ne pleurait pas, on devinait bien qu'elle avait un coup au cerveau. Je ne sais comment dire cela, elle était belle, toute isolée au milieu des groupes qui semblaient craindre son approche, tant il y avait de douleurs terribles, navrantes, prêtes à faire l'explosion sous l'apparente sérénité produite en elle par l'engourdissement moral. Elle avait l'air d'une dame. On n'avait jamais si bien remarqué cela qu'aujourd'hui, et pourtant ce n'était qu'une pauvre ouvrière. Sa fille était tout son bien, tout son cœur, elle n'avait au monde que sa fille. Elle ne parlait plus. Elle regardait la foule avec une sorte d'indifférence. Seulement, ses doigts tremblants touchaient son front et dénouaient peu à peu ses cheveux qui tombèrent bientôt en boucles mêlées sur ses épaules. Il y avait un homme au visage bronzé, encadré dans une barbe noire épaisse, qui se tenait à l'écart et suivait d'un œil fixe tous les mouvements. Cet homme semblait de marbre, tant son immobilité était complète. Nous l'avons vu déjà par deux fois, au théâtre forain et dans le coupé qui stationnait au coin du boulevard Mazas lors du départ de Gloriette. Et quand la Gloriette était montée en omnibus, c'est lui qui avait dit au cocher « Suivez ». Depuis le départ de Justin, la Gloriette n'en était plus à compter ceux qui avaient essayé de s'approcher d'elle. À supposer que celui-ci fût un amoureux, il ne ressemblait point aux autres qui parlent, qui s'insinuent, qui osent. Il était muet. La Gloriette rencontrait souvent sur son chemin sa figure régulière et sombre, mais elle ne connaissait pas le son de sa voix. Elle se tourna enfin vers Madame Noblet, qui lui dit, au hasard, « On la retrouvera, jamais rien de pareil ne m'est arrivé. » « Oui, oui !» fit Médor, qui secoua ses cheveux hérissés, comme s'il se fût éveillé tout à coup. « Je promets bien qu'on la retrouvera !» Lily revint sur le banc et s'y assit, les mains croisées sur ses genoux. De toutes les parties du jardin des plantes, les curieux affluaient maintenant. La perte d'un enfant est malheureusement chose peu rare dans les promenades parisiennes. Il n'y a pas toujours vol, l'incurie proverbiale des bonnes et les distractions que leur apportent leurs galants civils et militaires causent des alertes fréquentes. Il n'est guère de semaine sans qu'on rencontre aux Tuileries quelques rougeaudes essoufflées à force de courir et qui demandent aux gens si l'on n'a pas vu Alfred ou Emma qui s'est perdu. Le public est très sévère en ces circonstances et il a raison. La faute de la bonne est invariablement mise sur le compte de son soldat. Ce n'est pas toujours juste, mais c'est juste beaucoup trop souvent. On nous a dit que des mesures disciplinaires avaient été prises pour modérer la fougue de ces vaillants cœurs à qui la paix laisse trop de loisirs. Et si des mesures n'ont pas été prises, il faudrait les prendre. La liberté d'action de chacun est chose sacrée, mais d'autre part, certains jeux sont défendus au nom de la morale ou dans l'intérêt de la sécurité générale. Au nom de la sécurité et de la morale, il faut dénoncer ce jeu qui met de si vilains tableaux sous nos marronniers et qui constitue un danger permanent pour les familles. Ici, rien de semblable ne s'était produit. Madame Noblet, par son âge, était au-dessus des séductions, et pourtant, d'un bout à l'autre du bosquet, des groupes répétaient la légende de la Picarde, amusée par son voltigeur pendant que l'enfant confié à ses soins est entraîné Dieu sait où. La caricature a essayé de provoquer le rire à l'aide de cette terrible histoire de Mars changée en chenille et infestant nos jardins. Paris ne demande jamais mieux que de rire, mais il n'est pas désarmé pour cela. Soyez sûr que la rancune inexplicable contre l'armée, qui apparaît chez nous à de certains moments, n'est pas sans connexion avec ses misères. Le bouillon du sapeur, le grenadier déclarant sa flamme pendant que le marmot crie et pleure à plat ventre sur le sable, ce ne sont pas là des plaies bien profondes, n'est-ce pas? C'est du moins cette irritante démangeaison qui s'attaque justement à des épidermes très susceptibles. Les mères de famille et les maîtresses de maison n'aiment pas jouer des rôles de prussiennes dans cette parodie de la comédie du pays conquis. Ceux qui professent pour l'armée affection et respect voudraient voir l'armée elle-même appliquer un remède quelconque à de si burlesques maladies. Il y avait cependant un fait bizarre. De tous les gens directement intéressés à retrouver Petite Reine, personne ne bougeait. Madame Noblet mettait en rang le troupeau consterné. Médor restait immobile à regarder la Gloriette et celle-ci, courbée en deux, l'œil à demi fermé, semblait incapable d'agir et même de penser. Les gardiens arrivaient, et ceux qui s'étaient chargés d'aller aux grilles revenaient l'un après l'autre. Les factionnaires n'avaient rien remarqué. Lily leva les yeux parce que le nom de Petite Reine fut prononcé près d'elle par ceux qui donnaient des renseignements aux gardiens. « Elle est cachée, » dit-elle doucement. « Elle se met comme cela derrière les arbres pour me faire des niches. » Le fossile se leva et s'en alla. On le vit tirer un mouchoir pour s'essuyer les yeux. C'était poignant. Médor dit avec un sanglot, « Si on ne retrouve pas la petite ce soir, celle-là sera morte demain. » Quelqu'un connaissait-il la femme qui a tourné la corde? Demanda tout à coup une voix dans la foule. Madame Noblet frémit et Médor sauta sur ses pieds. Après, fit-on de toutes parts. Celui qui avait parlé sortit des rangs, mais il n'ajouta rien sinon ceci. Elle avait méchante mine, c'est sûr. Un des enfants dit, elle a donné un sucre de pomme à Petite Reine. Et un autre, quand les soldats ont foncé pour aller aux paysannes, la femme a embrassé Petite Reine et lui a encore donné un bonhomme de pain d'épices. Petite Reine était bien contente. Elle a dit à la femme, « Mène-moi voir les communiantes. » En trois coups de coude, Médor perça le cercle formé par la foule. on le vit courir lourdement, mais de toute sa force, dans l'allée de Buffon. Un des gardiens prit par écrit le signalement de Petit Train et celui de la femme qui avait tourné la corde, puis il indiqua à Madame Noblet la série de démarches à faire pour mettre la police sur les traces de l'enfant. « Mais, ajouta-t-il, ce n'est pas en restant comme ça, les bras croisés, que vous la retrouverez, ah non ?»«
Parbleu !» firent 20 voix. « Et c'est de drôles de montres, tout de même !»«
J'ai mes autres petits !» balbutia Madame Noblet pour s'excuser.
« Mais la mère, que diable, quand on a perdu son enfant !»
Les yeux de Lily tombèrent par hasard sur celui qui allait parler. Il eut froid dans les veines et se tut en reculant de plusieurs pas.
« Moi, d'abord, dit une grosse femme qui portait un chien dans ses bras, je n'ai jamais eu d'enfants, mais je ne les aurais pas donnés à garder à une promeneuse. »«
Ah !» s'écria Madame Noblet avec désespoir. « Ah, je sais quel tort cette histoire-là va faire à mon commerce !» Elle jeta à Lily un regard où il y avait de la rancune et ajouta « Voyons, ma bonne dame, remuons-nous un peu, vous devriez être déjà chez le commissaire !»
Lily ne bougea pas. De ses deux mains, qui étaient blêmes comme des mains de morte, elle rejeta ses cheveux en arrière et dit tout bas
« Tout ce monde lui fait peur et m'empêche de la voir. Ah, je sais bien qu'elle n'est pas perdue. » Un travail mental se faisait en elle pourtant, car le cercle bleuâtre qui entourait ses yeux devenait plus profond, et par intervalle une sorte de grelottement agitait tout son corps. Au bout d'une minute, elle se mit sur ses pieds avec effort et marcha droit devant elle, toute chancelante. Les gens s'écartaient pour la laisser passer, et je ne sais pourquoi sa merveilleuse beauté, prenant un caractère enfantin par le voile qui était sur son intelligence, rappela plus énergiquement à tous en ce moment Petit Train perdu.
« Comme elle lui ressemble !» balbutia Madame Noblet, au milieu d'un murmure composé de 100 voix qui échangeaient des paroles à voix basse.
Tout est spectacle à Paris. C'était ici un spectacle étrange, et qui ne rappelait en rien les scènes analogues. Il n'y avait ni grand mouvement, ni pleurs, ni cris, mais toutes les poitrines étaient oppressées. Et depuis que Lily avait quitté son banc, une douloureuse curiosité se peignait dans tous les regards. Ceux qui connaissaient Petit Train redisaient à satiété comme elle était belle et douce et riante, quel enchantement c'était que de la voir jouer sous les arbres, entourée d'enfants qui semblaient ses sujets et ses courtisans. Certes, Lily n'entendait pas, elle allait comme si elle eût essayé d'étouffer le faible bruit de ses pas pour surprendre quelqu'un. Un sourire où il y avait de l'espièglerie entrouvait ses lèvres colorées. Je l'ai dit et je le répète, c'était navrant, mais d'une autre façon que l'angoisse ordinaire. Elle n'alla pas bien loin, elle s'arrêta au premier arbre qui se trouvait sur son chemin et s'y appuya. Puis, ainsi soutenue, elle en fit le tour, vivement. Ce n'était pas de l'espoir qui éclairait son visage, c'était comme une certitude de voir derrière l'arbre ce qu'elle cherchait. Quand elle vit que derrière l'arbre il n'y avait rien, elle secoua la tête lentement et reprit sa marche vers l'arbre suivant. Le silence s'était fait, on voyait des gens qui pleuraient. Rien encore derrière le second arbre. Lily toucha son front et appela d'une voix chevrotante
« Justine, ma petite fille !»
Mais elle ne se découragea point et continua sa course vers le troisième arbre. Et, marchant, elle dit avec des pleurs dans la voix
« Je t'assure que je ne veux plus jouer, Justine. Quand je souffre, tu m'obéis toujours. »
Au pied du troisième arbre, l'homme au visage bronzé était debout. Ceux qui suivaient Lily le remarquèrent plus pâle qu'elle et le regard cloué sur elle comme s'il eût subi une fascination. À l'approche de la jeune femme, il se retira pas à pas, à reculons, sans cesser de la regarder. Elle atteignit l'arbre, elle chercha derrière, elle se laissa aller accroupie en disant
« Je ne veux plus jouer, je ne veux plus jouer, ah, que je souffre !»
À ce moment, Médor, lancé comme un boulet de canon, perça la foule de nouveau. Il était baigné de sueur. Il se rua sur l'homme au teint de bistre qui regardait Lily d'un œil égaré et le saisit au collet avec violence en criant « C'est lui, le factionnaire l'a reconnu, il a parlé à la voleuse d'enfants !» Si personne ne m'aide à l'arrêter, je l'arrêterai tout seul.